Et oui, une émission en deux parties pour ouvrir cette fabrique de l'histoire de ce lundi. Deux parties réunies par un fil ténu, un lieu géographique, le Caucase et les bords de la mer Noire. Pour commencer, nous aurons le plaisir de recevoir Jean-Paul Demoule. Il est professeur de proto-histoire à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et depuis plusieurs années s'intéresse aux Indo-Européens supposés, selon certains, être nés justement de ce côté de la mer Noire. Mais peut-on encore parler de ces Indo-Européens dont on veut faire depuis deux siècles le peuple originel parlant une langue à l'origine de toutes les langues européennes? C'est l'hypothèse que s'attache à démonter justement dans son dernier livre Jean-Paul Demoule, Mais où sont passés les Indo-Européens? Le mythe d'origine de l'Occident, publié dans la librairie du 21e siècle au seuil, il viendra nous en parler. Et puis dans la deuxième partie, nous serons également au bord de la mer Noire, réservoir quasi inépuisable d'esclaves envoyés au Caire pour devenir des mamelouks. C'est leur histoire que nous raconte Julien Loiseau dans son dernier livre publié dans la collection L'Univers historique au seuil. Il sera en duplex des studios de notre correspondant à Jérusalem, Sébastien Logeni, que nous remercions pour son accueil. Bonjour Jean-Paul Demoule.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous pour parler de votre livre, un gros livre, Mais où sont passés les Indo-Européens, le mythe d'origine de l'Occident, publié dans la librairie du 21e siècle au Seuil, un livre que vous promettez à votre éditeur, je crois, depuis plusieurs années, voire peut-être plusieurs dizaines d'années en l'occurrence, Jean-Paul Demoule. C'est Maurice Hollander qui vous l'a demandé, c'est cela?
Oui. Enfin, j'ai fait des articles entre-temps, mais effectivement, il y avait un livre qui a été retardé par d'autres urgences.
Alors, on pourrait presque titrer votre livre en paraphrasant le grand historien Paul Venn, « Les Européens ont-ils cru à leur mythe ?» Il s'était demandé si les Grecs avaient cru à leur mythe. Oui. Et là, vous démontez une sorte de mythe scientifique, en tous les cas, qui se veut scientifique, linguistique, anthropologique, ethnologique, etc., qui serait justement que, eh bien, toutes les origines, il y aurait une sorte de langue originelle, de peuple originel, duquel seraient partis toutes les peuples d'Europe depuis, dans une grande migration, dont on ne sait pas si elle a démarré au bord de l'Indus, au bord de la mer Noire, ou pourquoi pas au bord de la Baltique. Ça change selon les interprétations et les personnages et les époques. Mais en tout cas, c'est ce que vous racontez dans un livre extrêmement savant. Vous avez passé énormément de temps à lire pas mal de faux historiques, on pourrait presque dire, pour certains d'entre eux.
Oui, parce que ça se présente effectivement comme des grandes découvertes scientifiques du fin 18e, début 19e siècle. Le fait qu'un certain nombre de langues de l'Europe et au-delà, puisque ça comprend l'Inde, l'Iran, le Pakistan, l'Afghanistan, etc., ces langues se ressemblent. Alors il y a d'abord fallu que ça s'ouvre, la possibilité de réfléchir là-dessus, puisque avant, la mère de toutes les langues, c'était forcément l'hébreu, puisque c'est en hébreu que Dieu avait parlé.
Et au XVIIIe siècle, il y a une sorte d'autre façon de voir et de faire de la glottochronologie, comme on dit, c'est ça, c'est-à-dire de remonter une sorte de chronologie des langues qui remonterait comme cela au fur et à mesure, au plus loin possible. Et ce plus loin possible, ça ne peut être qu'une langue unique avec le modèle de Babel, évidemment.
Oui, bien sûr, parce que on est dans le modèle biblique, dans le modèle de Babel, dans le modèle de l'arche de Noé, donc du point origine, qui est en général toujours une des grandes questions que se posent toutes les sociétés humaines. Donc on rentre là-dedans, mais on rentre au moment où, en même temps, effectivement, la Bible commence à baisser en crédibilité, d'autant plus que les Européens, quant à leur mythe d'origine, sont dans une situation schizophrénique, puisque tous les peuples du monde ont un mythe d'origine qui explique comment ils sont les meilleurs et les autres sont beaucoup moins bien. Et le mythe d'origine des Européens chrétiens, eh bien, ils le doivent aux Juifs. Mmh. Et les Juifs, c'est leur bouc émissaire traditionnel. Donc, c'est une situation très, très étrange.
Et ces lumières que l'on valorise tout le temps, qui voient à la fois Leibniz et Voltaire œuvrer dans ce XVIIIe siècle, sont des lumières qui vont aller chercher ailleurs. Et en particulier Leibniz, très tôt, en 1704, dans un ouvrage posthume publié plus tard, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, imagine une langue radical primitif qui se trouve déjà au bord de la mer Noire, ce que d'autres reprendront plus tard. Voltaire va lui aussi aller chercher ailleurs cette possibilité d'une naissance, lui plutôt du côté de l'Inde, puisqu'il y a une sorte de découverte exotique de l'Inde dans ce XVIIIe siècle. Alors, en tout cas, on va au plus loin pour pouvoir imaginer comment les peuples européens ont pu se forger une langue commune ou des langues qui se rapprochent.
Oui, c'est ça, et qui squeezerait effectivement le modèle classique biblique. Donc on va dans des endroits qu'on ne connaît pas, aussi bien l'Inde, et ça se défera quand on connaîtra vraiment l'Inde pour de vrai. L'Inde aussi, parce que c'est en rapprochant, à partir du moment où on apprend l'existence du sanskrit à la fin du 18e, et qu'on voit que ça ressemble aussi au grec et au latin. Et le cas de Leibniz est tout à fait intéressant, parce que justement il dit que ces peuples, à l'origine, venaient du nord de la mer Noire. Et on va voir tous les 50 ans des grands savants dire « J'ai fait une immense découverte grâce à des nouvelles découvertes scientifiques. Et figurez-vous, les Indo-Européens viennent de la mer Noire. » Et c'est en fait une espèce de cercle vicieux scientifique.
De retour cyclique.
Voilà, absolument. Et à chaque fois, donc, on va trouver des objets archéologiques au bord de la mer Noire. On va dire « C'est les Indo-Européens. » Et ça prouve bien que les Indo-Européens viennent du bord de la mer Noire.
Alors, donc, on voit bien l'origine du mythe, la volonté de l'imposer dans ses débuts balbutiants d'une scientificité archéologique, linguistique, etc. Beaucoup de linguistes y travaillent. Alors, tous ceux qui nous écoutent ont dû avoir en tête des discours autour des Indo-Européens dans les années 70, dans les années 80, avec Georges Dumézil. On y viendra un peu plus tard avec vous, Jean-Paul Demoule, ou encore avec Georges Duby, l'immense historien du Moyen-Âge, la tripartition fonctionnelle, etc. Mais quand on revient avec vous, ce qui est passionnant dans votre livre, un gros livre donc dans la librairie du XXIe siècle, c'est de s'apercevoir qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'errements, mais avec tout de même une logique qui se voulait la même, c'est-à-dire essayer de remonter le plus loin dans les langues, en particulier en utilisant la métaphore de l'arbre. Cette métaphore de l'arbre, elle vient évidemment de Linné, de la façon dont Linné a établi la classification des espèces, et les linguistes ou les proto-linguistes, pourrait-on dire, se sont intéressés à cette métaphore de l'arbre puisqu'il y a des branches. Ces branches sont rattachées à un tronc et ce tronc nous emmène évidemment à des racines et ces racines sont forcément indo-européennes, Jean-Paul Demoule.
Oui, c'est parce que c'est l'arbre généalogique qui sert de modèle à toute chose, d'autant que c'est Linné qui le met en place et qu'au milieu du 19e siècle, Charles Darwin vient lui donner un sens biologique. Que donc tout arbre est pas seulement descriptif parce que les arbres de Linné sont en partie, sont pas tous généalogiques, mais à partir de Darwin, tout arbre devient généalogique. Et c'est très intéressant qu'un des premiers linguistes qui a travaillé sur les Indo-Européens, le premier à tracer un arbre, August Schleicher, un Allemand, parce que les Indo-Européens sont une science allemande pendant tout le 19e siècle, eh bien, il se réfère explicitement à Darwin. Et cette idée-là des langues comme arbre vivant, généalogique, ça va hanter jusqu'à nos jours, quelles que soient les méthodes, les techniques, avec maintenant des techniques de plus en plus sophistiquées de fabrication d'arbres, et bien on va retomber dans la même ornière.
Toujours avec cette idée de, en remontant les rameaux de l'arbre, on va rejoindre l'origine. Et pourtant, vous dites que très tôt, des disciples de ce premier linguiste dont vous parlez, Schleicher, un des disciples en tous les cas, va émettre des doutes. On est au milieu du 19e siècle et va dire tout compte fait, ces langues, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elles sont issues d'un tronc unique et puis ensuite se détachant et se séparant les unes des autres, vont migrer. Ce linguiste, peut-être on pourrait prendre une autre métaphore, la métaphore des cailloux qu'on jette dans l'eau et eh bien, quand on en jette une poignée, eh bien, plusieurs des ondes qui sont provoquées par ces cailloux se rejoignent, se croisent, s'interfèrent, et il y a un autre modèle linguistique qui est en œuvre, et qui pourrait être à l'œuvre. Mais ce linguiste-là n'a pas beaucoup de succès, et au bout du compte, il faudra attendre la fin du XXe siècle pour imaginer effectivement qu'il y a la possibilité, par la créolisation, le mixage des langues, d'avoir une autre type d'évaluation de la propagation des langues à travers l'histoire, Jean-Paul de Moule.
Oui, c'est ça qui est très intéressant, parce qu'il y a, vraiment une doxa, une vulgate dominante qui est le seul modèle possible, c'est l'arbre, et que, dans le champ des études indo-européennes, alors que, comme vous le dites, Johannes Schmidt, Hugo Schuchart, plus tard Nikolai Trubetskoy, toute une série de linguistes, certes minoritaires, ont proposé d'autres modèles depuis 150 ans. Donc on a les moyens, et ces autres modèles fonctionnent dans d'autres champs linguistiques que celui des études indo-européennes.
Alors ce qui est étrange, c'est que, évidemment, si on recherche l'origine d'une langue commune, c'est pour rechercher un peuple commun. C'est ce que les Allemands appellent à la fois l'Urheimat et l'Urvolk, donc un peuple unique, une patrie unique. Qu'est-ce qu'ils cherchent les savants du 19e siècle quand ils vont chercher cette patrie commune et ce peuple commun, selon vous, Jean-Paul de Moule?
Si pendant tout le 19e siècle, c'est une science allemande, je pense que c'est parce que les Allemands sont confrontés à leur dispersion en états très, très variés. Les Français n'ont pas ce problème, et d'ailleurs, ils ne s'intéressent pas aux Indo-Européens au 19e siècle. Et la seule unité, ce qui fait qu'on est allemand au 19e siècle, qu'on habite dans le duché de Bade, le royaume de Bavière, celui de Prusse ou l'Empire d'Autriche, c'est qu'on parle allemand. Et donc, il y a un intérêt pour ça, pour la langue. Et cette idée du peuple unique indo-européen, c'est l'image du peuple unique germain. Et d'ailleurs, en allemand, indo-européen se dit indo-germanisch, indo-germanen. Et c'est pour ça qu'à la fin, les Allemands décideront que le foyer, il était sur les bords de la Baltique, et que les germains, les indo-européens les plus purs, c'est les germains blonds aux yeux bleus.
Oui, parce que évidemment tout cela va évoluer. On est à la recherche des Aryens, il faut le rappeler. On voit évidemment vers où on va cheminer. Vous dites les Français, les scientifiques français sont très peu au 19e siècle intéressés par cette question des Indo-Européens, mais ça va venir. C'est-à-dire qu'au cours du 20e siècle, il y aura des tendances de plus en plus nombreuses de gens qui vont s'y intéresser. Alors, tendances ésotériques, vous les développez, tendances matinées de théosophie, etc., etc., qui sont de nombreuses disciplines qui se créent dans la deuxième moitié du 19e siècle. Comment tout cela devient-il véritablement scientifique, puisqu'à un moment, ça arrive à l'université, ça n'est pas simplement un domaine d'amateurs, ce ne sont pas juste des hobbies de nobles qui recherchent l'origine pour soit leur propre famille, soit la famille plus large de l'Allemagne ou des Francs, par exemple. Qu'est-ce qui se passe pour que tout cela entre sérieusement à l'université, qu'on dise oui, là, il y a vraiment quelque chose en linguistique, en ethnologie, en archéologie qui puisse se justifier. Il y aurait un peuple unique, celui des Indo-Européens, qu'il nous faut découvrir.
Il y a deux choses. Il y a qu'effectivement, toute science est enveloppée d'un halo de parascience. Donc, c'est dès le 19e siècle, il y a l'aspect parascientifique des Indo-Européens qui existe jusqu'à nos jours. Et il y a le fait que, par ailleurs, effectivement, c'est ce qu'on appelle à l'époque la grammaire comparée des langues indo-européennes, c'est une discipline rigoureuse qui permet de montrer que des langues se ressemblent. Alors on a toujours le modèle qui revient définiment, qui est celui du latin qui donne naissance aux langues romanes. Et on dit, vous voyez, on a ce modèle-là, donc il suffit de monter un cran au-dessus, et avec un risque évident de cercle vicieux. Et par rapport à cette question-là, beaucoup d'indo-européanistes linguistes ont un double langage. C'est-à-dire, ils disent, par exemple, Antoine Meillet, qui a été le grand linguiste pendant le premier tiers du XXe siècle en France, Antoine Meillet dit « L'indo-européen, c'est un système de correspondance linguistique. Ça permet de comparer les langues entre elles, point. » Et puis, un peu plus tard, un ou deux chapitres ensuite, il dit « Mais il y a quand même eu une nation version indo-européenne. D'ailleurs, c'était une langue de chef, puisqu'ils sont imposés au monde entier. Et puis, c'était des chefs très habiles, puisqu'on n'en voit aucune trace archéologique. Donc,
il n'y a pas de trace, donc ils ont existé.
Voilà,
tout même.
Voilà, c'est ça.
C'est ce que vous tentez de démontrer dans une sorte de volonté de démonter, justement, Jean-Paul de Moule, cette mythologie telle qu'elle s'est mise en place, puisqu'évidemment, à chaque fois qu'on les cherche, on ne les trouve pas, ces indo-européens. Oui. C'est ça le problème. Mais évidemment, il y en a d'autres qui vont utiliser cela de manière politique. On sait ce qu'en ont fait les nazis, en particulier. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quelles idées on projette sur ces indo-européens, puisque vous avez regardé toutes les littératures scientifiques qui ont été produites autour de ces indo-européens dans les années 30, par exemple, etc. Alors, on y projette des gens qui sont libres dans de libres espaces, qui chevauchent dans des steppes, qui ont la liberté de ceux qui peuvent se déplacer là où ils veulent, quand ils veulent, ou alors ils sont aussi des chefs, ils s'imposent aux autres, ils sont des petits groupes, des sortes de commandos qui arrivent à faire tomber des empires, et puis ou des royaumes, et puis ensuite qui les transforme à leur guise et qui leur impose une sorte des divinités qui sont les leurs sans qu'on n'en trouve jamais la trace, Jean-Paul de Moule.
Oui, parce que cette idée d'un destin d'exception des Indo-Européens, à la fois elle est le reflet inversé de la colonisation européenne du monde. Il y a un destin fabuleux des Européens qui se manifeste à partir du 18e et tout le long du 19e. Donc c'était forcément des gens d'exception. Et d'une certaine manière, c'est ni de droite ni de gauche. C'est-à-dire que cette idée du petit peuple conquérant va être pris aussi bien par des gens plutôt de gauche, socialistes comme Antoine Meillet, voire communistes comme son principal disciple Émile Benveniste, que par des gens beaucoup plus marqués à droite. Et à ce sujet, on m'a reproché quelquefois de culpabiliser les études indo-européennes en disant si on s'occupe de ça, c'est qu'on est nazi. Je tiens à préciser que c'est pas le cas, mais que le nazisme agit comme un miroir grossissant. Mm-hmm. C'est-à-dire que si on pousse jusqu'au bout la logique, on arrive quand même à ça, donc on doit effectivement réfléchir autour de ça. Le nazisme et sa descendance actuelle.
Alors, puisqu'il y a toute une partie, évidemment, c'est un très gros livre qui, dans un deuxième temps, passe au-dessus de l'usage qu'en ont fait les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et avant la Seconde Guerre mondiale, pour voir ce que c'est advenu de cette hypothèse, ce qui est devenu cette hypothèse, donc, dans les années 60-70, vous y évoquez évidemment celui qui nous a tous fascinés quand on avait 20 ans dans les années 80, c'est-à-dire Georges Dumézil, son savoir, sa connaissance. Vous êtes relativement tranquille avec lui alors que vous avez pu ferrailler parfois alors qu'il était encore de ce monde contre lui en particulier. Vous semblez dire que tout compte fait, on ne peut pas lui reprocher énormément de choses par rapport à d'autres qui ont utilisé cette mythologie indo-européenne, par exemple la Nouvelle Droite. Mais néanmoins, c'est bien lui qui, d'une certaine façon, l'a imposé, thèse indo-européenne, mais aussi avec Mircea Eliade peut-être, mais aussi la question de la tripartition fonctionnelle, le chevalier, la femme, le prêtre, le prêtre, le soldat, le travailleur, qui sont des schéma qui fonctionne encore beaucoup aujourd'hui, Jean-Paul de Moule.
Oui, parce que c'est assez logique que dans toute société, il y a ceux qui commandent, il y a
les travailleurs,
et il y a ceux qui travaillent, parce qu'il en faut bien. Et je pense qu'il restera beaucoup de l'érudition de Dumézil, les comparaisons entre les mythes, etc. Mais la réduction à un peuple originaire et à une mythologie originaire, elle ne marche pas à la fois par excès et par défaut. Parce qu'il y a des mythologies.
Vous dites qu'avec Georges Dumézil, le modèle marche, sauf quand il ne marche pas.
Voilà,
c'est ce que vous dites. C'est-à-dire
ça,
que c'est comme ça qu'il écarte la question grecque, puisque ça ne marche pas en Grèce, mais ça marche à Rome. Donc on peut expliquer pourquoi, logiquement, les Indo-Européens ne sont pas passés par la Grèce, ou du moins ça n'a pas fonctionné véritablement en Grèce. C'est ce que vous expliquez.
Oui, c'est ça. Il y a toujours une réponse, et de même qu'on va la retrouver, cette mythologie trifonctionnelle, c'est les Japonais ou les Coréens, de même qu'il y a des aspects qui ne sont pas du tout trifonctionnels dans certaines de ces mythologies. Donc ça existe, si vous voulez, ce qui dit, il y a eu de grands brassages idéologiques, mais il n'y a pas eu ce peuple originel.
Alors, évidemment, si votre livre ne se contentait que de critiquer vos prédécesseurs scientifiques, Jean-Paul Deboul, il aurait un intérêt, évidemment, que de démonter un mythe. Mais c'est qu'il vous aide aussi, en tant que professeur de proto-histoire, à reconstruire autre chose, à imaginer autre chose, en particulier sur, justement, cette trifonctionnalité. Vous dites tout compte fait, pourquoi de chercher une origine unique alors que ça marche un peu partout dans le monde, et au bout du compte, ça peut être aussi un modèle explicatif, intéressant, anthropologique, qui nous intéresse de façon diverse, mais aussi sur la façon dont ces langues se sont propagées, sur la question de la créolisation. Et donc là, vous revenez à ces penseurs de la créolisation du 19e siècle, comme Schuhart, qui avait déjà imaginé que peut-être ce n'était pas la métaphore de l'arbre qui était la bonne pour pouvoir justifier la propagation des langues à travers la Terre dans le temps.
Oui, et d'ailleurs, je pense que c'est d'une brûlante actualité, parce que dans la mesure où on a comme ça cette idée, par exemple, la France vient du fond des âges, donc chaque nation viendrait du fond des âges dans une structure arborescente. On peut montrer, au contraire, aussi bien dans le domaine archéologique que linguistique, mais effectivement, dans des domaines plus novateurs que celui des études indo-européennes, ou d'autres, qu'on est dans la créolisation perpétuelle, on est dans le brassage continuel, et qu'on peut le montrer dans tous les champs concernés.
Mais est-ce que vous ne craignez pas, comme ces scientifiques, et d'ailleurs j'ai noté que lui-même, Dumézil, avait une très jolie phrase pour évoquer ce qu'il faisait. Il disait: à supposer que j'ai totalement tort, mes indo-européens seront comme les géométries de Riemann et de Lobachevsky, des constructions hors du réel. Ce n'est déjà pas si mal, il suffira de me changer du rayon des bibliothèques, je passerai dans la rubrique roman. Est-ce que justement vous, en proposant un autre modèle, qui est ce modèle de la mixité, du mélange, de la créolisation, qui est effectivement un modèle de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, vous ne pensez pas être, vous non plus, comme d'autres chercheurs, qui le proposent dans le temps, c'est-à-dire d'être pris comme l'était Dumézil dans les années 30, ou comme l'étaient les penseurs des Indo-Européens au milieu du XIXe siècle, dans leur temps, Jean-Paul Deboul?
On parle forcément de son temps et par rapport à ces modèles. Donc je pourrais dire modestement qu'on le verra un jour.
si votre livre rentre dans la catégorie des romans.
Roman ou pas, mais c'est en partie le grand roman, effectivement, des origines de l'Occident.
Merci Jean-Paul Deboul d'être venu nous présenter votre livre qu'il faut lire quand on s'intéresse à ces questions, justement, qui sont des questions très importantes, à la fois de discipline, mais aussi de la façon dont la science se constitue. Parce que, en vous lisant, on découvre qu'il y a eu des dizaines de sciences mornées, pourrait-on dire, au XIXe siècle. Toutes ces sciences de brachycéphale, dolichocéphale, mesure des crânes, physique, craniologie, craniométrie, etc. Et donc, c'est fort intéressant en histoire des sciences, comme d'ailleurs en histoire de la linguistique ou de l'archéologie. Merci d'être venu nous parler de ce livre « Mais où sont passés les Indo-Européens ? Le mythe d'origine de l'Occident » dans la collection La Librairie du XXIe siècle au Seuil.
France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
musique égyptienne Nedin, interprétée par Abdo Daker. Donc, pour nous introduire au deuxième sujet de cette émission du jour, qui lui sera l'ouverture de notre semaine consacrée donc à gouverner en islam, qui est le thème du nouveau thème des concours d'histoire, agrégation et CAPES, mais qui, j'espère, intéressera aussi tous nos auditeurs qui ne sont pas en train de préparer justement ces concours d'histoire. Et avec nous, depuis les studios de Jérusalem, de notre correspondant Sébastien Logeni, Julien Loiseau, qui enseigne et qui recherche là-bas, puisque vous dirigez un centre de recherche français à Jérusalem, Julien Loiseau, auteur des Mamelouks, 13e, 16e siècle, dans la collection L'Univers historique au Seuil. Bonjour Julien Loiseau.
Bonjour Emmanuel Laurentin.
Et merci d'être avec nous pour ouvrir cette semaine. Pourquoi les Mamelouks sont-ils intéressants selon vous dans cette thématique du gouvernement en islam, qui est la thématique des concours entre le 10e et le 15e siècle, puisque tout compte fait, ils ne commencent leur véritable existence qu'au 13e siècle, ces Mamelouks, Julien Loiseau?
Alors les Mamelouks occupent une place chronologiquement tardive, effectivement, dans le programme qui est proposé au concours du CAPES et de l'agrégation, mais ils occupent, ou leur régime occupe, une place centrale dans la culture politique islamique au Moyen-Âge, à la fois parce qu'ils sont les héritiers d'une tradition, l'esclavage militaire, dont on reparlera, également parce que il représente un régime unique en son genre, sans aucun équivalent, et qui pourtant a connu une très très grande stabilité pendant près de plus de 2 siècles et demi. Et enfin parce que, curieusement, alors même que ce régime, on en reparlera, est radicalement nouveau, il perpétue les formes anciennes de pratiques de gouvernement et des formes anciennes de légitimité politique qu'il perpétue très tard dans l'histoire islamique, jusqu'à ce que ces formes et ces pratiques soient en partie balayées par la conquête ottomane au début du XVIe siècle.
Alors, ces Mamelouks, il faut le dire, on les découvre comme esclaves. Donc, ils sont issus, j'évoquais ce fil ténu qui rassemblait les deux thèmes de notre émission du jour avec Jean-Paul Demoule en première partie. Ils sont issus de ces bords de la mer Noire. Qui sont ces personnes qui sont donc radiées par des marchands? On en sait peu de choses, dites-vous. On connaît certains de ces marchands. Ils sont parfois génois, ils sont parfois d'autres. Ils viennent de ces contrées. Ils sont arabes pour d'autres, juifs pour d'autres. Qui amènent, comme dans une sorte de flux continu, ces esclaves, généralement jeunes, voire très jeunes, du côté du Caire, Julien Loiseau?
Alors le commerce des esclaves en général, au Moyen-Âge, est un commerce mondialisé, globalisé, qui fait intervenir des acteurs très différents, qui d'ailleurs accomplissent des tâches distinctes au sein de ces réseaux du grand commerce. Ces marchands, effectivement, sont de toutes origines, mais ils se retrouvent dans des réseaux de commerce communs, en particulier dont les ports de transit se trouvent sur les bords de la mer Noire, et en particulier en Crimée. Mmh. Au fond, la mer Noire, ou les ports de Crimée en mer Noire, c'est le hub par lequel transite une grande partie de ce commerce des esclaves, mais qui plonge plus loin dans l'espace, puisque ces jeunes esclaves sont rasiés dans la steppe eurasiatique, dans les territoires d'aujourd'hui de l'actuelle Ukraine ou du sud de la Russie.
Alors, ces jeunes sont rasiés, pourquoi? Parce qu'au bout du compte, on peut se demander quel est le besoin de ces sultans du côté du Caire d'avoir un tel afflux pour lequel ils dépensent tant d'argent, puisque vous développez dans votre livre le coût que coûte justement l'achat de ces esclaves à la plupart de ces sultans. Pourquoi font-ils cela et quel est l'intérêt qu'ils ont justement à aller chercher ces jeunes garçons en particulier au fin fond de la mer Noire ou de l'Asie centrale?
Alors, le système de l'esclavage militaire est effectivement un système extraordinairement coûteux, qui représente un poids financier écrasant pour l'État mamelouk, et qui n'était guère possible, au fond, que dans cette région-là, adossé à la richesse agricole et fiscale de l'Égypte. Un coût d'autant plus lourd que les mamelouks sont une marchandise fragile. Alors, j'emploie à dessein ce mot choquant, mais les esclaves sont effectivement des biens meubles au Moyen-Âge, des marchandises, une marchandise fragile, car plus soumise que les populations autochtones aux maladies endémiques, et en particulier, puisque l'époque est marquée par ce grand événement, la fin du Moyen-Âge est marquée en Orient comme en Occident par le retour de la peste. Alors un système extraordinairement coûteux dont on peut bien se demander effectivement quelle est l'utilité politique. Elle est double. Elle repose sur l'idée que le meilleur rempart de la civilisation contre ses adversaires, quels qu'ils soient, ce meilleur rempart ne peut venir que des marges de la civilisation, que seuls des barbares, au fond, peuvent défendre la civilisation contre d'autres barbares.
Arrêtons-nous sur ce postulat, parce que c'est un postulat qui est central dans votre livre, Julien Loiseau, Les Mamelouks, paru au Seuil, et qui, évidemment, surprend. C'est-à-dire que ce sont les allochtones qui vont défendre une sorte d'autochtonie. Au bout du compte, on va aller chercher les gens qui sont aux marges pour pouvoir les mettre au centre du pouvoir, et c'est eux qui vont mieux défendre ce pouvoir que s'ils étaient, du centre. Ils sont païens, ils sont chrétiens, on va les convertir à l'islam, on va les transformer en soldats, et ces soldats que l'on va prendre comme esclaves, on va les affranchir, et une fois affranchis, ils ne partiront pas, ils seront les meilleurs remparts à la possibilité de prise de pouvoir de l'extérieur ou de l'intérieur. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette pensée politique, Julien Loiseau ?
Alors, elle repose sur un postulat qui est que les sujets du royaume, les sujets de l'État sont désarmés, ne sont pas en capacité de porter les armes et de défendre la société contre ses adversaires les plus résolus. La force, elle est aux marges, elle n'est pas au centre. Le centre, en quelque sorte, adoucit les mœurs, amollit les mœurs, et les fils du pays ne peuvent pas le défendre.
Il n'y a pas que Ibn Khaldoun qui pense ça au XIVe siècle. Les autres penseurs, disons, de cette sphère politique pensent cela aussi. C'est-à-dire que le centre s'amollit, la douceur des mœurs dans une société urbaine comme le Caire est un danger qu'il faut donc raffermir à chaque fois cette douceur en allant chercher des gens qui sont plus durs et qu'on va former au combat. C'est cela ?
C'est exactement ça. Alors, de savoir si d'autres penseurs l'ont formulé dans ces termes, certainement pas. Ibn Khaldoun est vraiment un penseur unique en son genre. Mais il est évident que le régime mamelouk lui-même, son montage extraordinairement complexe et coûteux, est bien l'expression que d'une prise de conscience de cette situation. C'est bien une réponse apportée à un constat à la fois politique et militaire.
Alors, ce qui est quand même très étrange, Julien Loiseau, ce qui est très étrange, c'est que, en l'occurrence, ces gens que l'on va chercher pour pouvoir défendre le pouvoir, ils vont à un moment, en 1250, renverser ce pouvoir au milieu du XIIIe siècle et le prendre pour eux-mêmes. Donc, ceux qui, d'une certaine façon, s'étaient créés une garde prétorienne de soldats qui venaient du centre de l'Asie, eh bien, ils vont en pâtir puisqu'ils vont être renversés par ceux qui étaient censés les protéger.
Alors, tout à fait. Les Mamelouks s'emparent du pouvoir dans un concours de circonstances et, au fond, dans un premier temps, ne savent pas très bien quoi en faire et vont élaborer progressivement des réponses et des solutions à ce problème. Mais ce concours de circonstances, il est essentiellement dicté par la menace que constituent, au milieu du XIIIe siècle, les conquêtes mongoles à l'échelle du continent eurasiatique, qui sont en train de balayer l'Orient de l'islam. Et l'affaiblissement au Proche-Orient de la dynastie issue de Saladin, des Ayoubides, qui s'épuisent dans des guerres familiales entre cousins et qui ne sont plus en mesure de faire face à cette menace mongole qui est doublée par la menace croisée et la septième croisade conduite par le roi de France Louis IX. C'est donc un concours de circonstances qui porte les Mamelouks au pouvoir, les Mamelouks qui les officiers de l'armée égyptienne qui décident d'assassiner l'héritier du trône et de mettre l'un des leurs à sa place. Alors c'est une la solution ne s'esquisse que progressivement. Il y a tout un bricolage à la fois politique et idéologique dans un premier temps pour répondre à ce vide créé par l'assassinat de l'héritier du trône. Ce qui est sûr en revanche, c'est que les Mamelouks très rapidement vont, par leur victoire militaire essentiellement, se bâtir une légitimité politique incontestable. Et que l'espèce de scandale que peut constituer la montée d'un ancien esclave sur le trône, ce scandale s'estompe dès lors que ce sont précisément ces anciens esclaves qui sont les seuls en mesure de protéger la civilisation, de protéger ce qui reste de l'islam, de la menace mongole, païenne, qui déjà balaye l'Irak et le califat de Bagdad.
Alors, ce qui est très étrange, effectivement, Julien Loiseau, c'est que, évidemment, il va se poser à chaque génération la même question. Est-ce que celui qui est monté sur le trône doit privilégier sa succession légitime, c'est-à-dire un de ses fils pour le remplacer sur ce même trône, sur cette place, à cette place de sultan, ou est-ce qu'au contraire, il faut là aussi régénérer et donc empêcher la succession dynastique? Et vous expliquez que tout au long de ces deux siècles et demi de gouvernement mamelouk dans la région de l'Égypte, mais aussi de la Syrie et du Liban actuel, eh bien, à chaque fois, la question se pose, ou presque, est-ce qu'il faut empêcher la succession dynastique ou est-ce qu'au contraire, il faut la privilégier?
Alors effectivement, il y a une tension entre les deux aspirations. D'une part, l'aspiration bien légitime, bien compréhensible de la part d'un souverain de transmettre son trône à son fils, à son héritier naturel. Et d'autre part, la réticence de l'aristocratie militaire, sa réticence à l'égard de ceux qui précisément ne sont pas passés par le même cursus que ceux qui ne sont pas passés par l'esclavage militaire, qui n'ont pas connu l'éducation militaire dans les casernes mamelouks, la réticence à les voir accéder aux mêmes fonctions, aux mêmes privilèges politiques qu'eux. Et cette tension entre ces deux principes, elle se résout tout au long des deux siècles et demi de l'histoire mamelouk de manière différente selon les contextes, selon que les projets dynastiques portés par le souverain aboutissent effectivement et une dynastie s'impose pendant pratiquement un siècle à la tête du sultanat. Et puis, au contraire, des périodes où la haute aristocratie militaire refuse le principe de la succession dynastique et instrumentalise l'héritier du trône comme une solution transitoire dans l'attente qu'émerge un nouveau chef, un officier capable de s'imposer à ses pairs et à s'emparer du sultanat.
C'est-à-dire que vous nous décrivez une sorte de spoil system, pourrait-on dire, comme on dit aux États-Unis, avec cette idée que cette aristocratie, eh bien, elle est rapide. Donc on est rapté, on est formé au Caire, dans une caserne, on apprend les langues, on apprend l'arabe, puisqu'on ne le parle pas originellement, puisqu'on est originaire d'une autre région, on apprend l'arabe, bien ou mal, on parle le turc parce que c'est la langue militaire privilégiée donc, au sein de ces mamelouks. Et puis, on fait sa carrière, on est affranchi, on fait sa carrière. Mais c'est, comme dit un chercheur, une « one generation aristocracy », c'est-à-dire c'est une aristocratie qui ne perdure pas la plupart du temps.
Oui, ou plus exactement, c'est une aristocratie dont les héritiers ne sont pas les héritiers naturels, sont pas les descendants naturels. Les vrais héritiers politiques d'un sultan mamelouk, ce sont ses propres mamelouks, ses propres esclaves soldats, qu'il a d'ailleurs éduqués et nourris comme ses fils par le sabre, et non ses fils par le sang. Les descendants de mamelouks, les descendants naturels, les fils et filles, ou petits-fils et petites-filles, représentent dans la société syro-égyptienne de l'époque, parce que comme vous le rappeliez, le régime gouverne et unifie d'une main ferme l'ensemble de la région qui va de la vallée du Nil à la vallée de l'Euphrate. Les descendants des Mamelouks représentent un groupe social particulier que les contemporains désignent sous l'appellation de fils des gens, les fils des gens, qui précisément ne sont pas les gens, les Mamelouks eux-mêmes, ne sont pas non plus complètement des autochtones. Souvent, d'ailleurs, dans leur propre nom, ils rappellent leur ascendance illustre. Mais ces fils des gens n'ont qu'un accès marginal à la hiérarchie militaire, qu'un accès marginal aux privilèges politiques de leur père et, in fine, s'intègrent dans la société civile syro-égyptienne et occupent d'autres fonctions que la fonction des armes, réservées non pas par idéologie à un ancien esclave, mais parce que précisément, c'est ces anciens esclaves qui sont les mieux à même d'assumer cette fonction des armes.
Alors, Julien Loiseau, dans votre livre sur les Mamelouks, paru au Seuil, vous dites qu'on connaît bien cette société Mamelouk, qu'elle est connue parce qu'on a un luxe de détails, beaucoup de documentation, etc. Vous entrez même dans la formation de ces jeunes Mamelouks. Vous nous expliquez comment ils sont formés, d'abord dans des classes de 25 élèves environ. On leur apprend l'arabe, ensuite on leur apprend évidemment la lecture, l'écriture, la langue pratiquée, je l'ai dit, c'est le turc. On leur fait une sorte de conversion formelle à l'islam, ils sont chrétiens ou païens et ils ne viennent pas évidemment des milieux musulmans puisqu'il est interdit de mettre en esclavage des musulmans. Donc, et puis après, à partir de 15 ans, dites-vous, on leur apprend les arts de la guerre, c'est cela ?
Tout à fait. L'éducation des Mamelouks est une éducation globale qui commence par un véritable changement d'identité puisque les jeunes Mamelouks prennent un nom de conversion qui marque leur conversion à l'islam. Parfois même changent de nom propre puisque le maître peut décider de changer le nom propre de son esclave. Ils naissent donc à une nouvelle identité qui est une identité également musulmane puisque vous le rappeliez. Les esclaves, en principe, ne peuvent pas être musulmans, bien que certains jeunes musulmans aient pu intégrer le système Mamelouk en se faisant passer pour des non-musulmans. L'éducation est globale.
Si on se fait passer pour des non-musulmans pour devenir Mamelouk, c'est qu'il y a un avantage à cela, tout de même, Julien Loiseau. C'est une condition qui est relativement privilégiée, c'est considéré comme
tout à
tel
fait. Tout à fait, c'est la condition d'accès à la société militaire et in fine pour les plus doués ou les plus habiles ou les plus beaux des Mamelouks, l'accès à l'aristocratie militaire. Il faut en passer par l'étape de l'esclavage, quitte à mentir sur son identité d'origine, quitte effectivement à se faire passer pour un chrétien ou un païen et être réduit en esclavage et changer de nom. On connaît comme ça des parcours de jeunes garçons turcomans, musulmans, originaires du nord de la Syrie et qui ont cherché à intégrer la société militaire en se faisant passer pour ce qu'ils n'étaient pas et en changeant de nom.
Alors, vous insistez beaucoup sur cette question de l'identité parce que évidemment aujourd'hui où on sait, on nous parle beaucoup de questions identitaires et en particulier où certains chercheurs nous évoquent les multiples identités dont on se parerait dans une société mondialisée. Vous vous dites, ben là, il y a une vraie matrice, il y a quelque chose à regarder de ce côté-là, Julien Loiseau, puisque on porte l'habit des Turcs, comme on dit, on prend un blason lorsqu'on est Mamelouk, on pratique l'art équestre, on abandonne son nom, on prend le nom de plusieurs de ses patrons, voire parfois des marchands d'esclaves qui vous ont vendu. Donc effectivement, on peut se demander, mais là, on a peu de sources, ce qu'il en ressort à la fin, une fois qu'on est passé dans cette... ce tambour de machine à laver qui vous a fait changer 3 ou 4 fois d'identité.
Alors ce qui est assez fascinant, c'est qu'effectivement les Mamelouks changent d'identité au cours de leur parcours, naissent à une nouvelle identité sociale qui s'imprime jusque dans l'intimité du nom, puisqu'ils sont amenés, lorsqu'ils ne le portaient pas déjà, à porter un nom turc qui souvent est un nom à valeur totémique, hein, qui est un nom d'animal. L'aristocratie Mamelouk est constituée de taureaux heureux, de taureaux d'argent, de gerfaux blancs, hein, dont les noms ont ces significations littérales. Alors, ce qui est très curieux, c'est que, à la différence d'autres situations contemporaines au XVe siècle, en particulier dans l'Empire ottoman naissant, où l'on a des témoignages de soldats, de captifs d'origine allemande ou hongroise qui ont subi également l'esclavage, la conversion, ont intégré les troupes des janissaires, on a des témoignages de retour. de ceux que les Européens, les chrétiens d'alors appelaient les renégats, et qui racontent leur parcours, qui reviennent sur leur pas. Curieusement, on n'a pas l'équivalent du côté de l'aristocratie mamelouk. Alors c'est peut-être qu'une question de hasard documentaire, mais ça dit sans doute aussi autre chose, c'est que au fond, dans cette Méditerranée orientale de la fin du Moyen-Âge, il y avait intérêt, il y avait un gain personnel à changer d'identité, à basculer, à changer de monde, quand bien même on se rappelait parfaitement avoir appartenu à un autre monde, plutôt dans sa vie, plutôt dans son enfance.
Mais il y avait quand même quelques risques, puisque vous nous racontez tout de même que ceux qui montent le plus haut dans la hiérarchie mamelouk, c'est-à-dire qui deviennent sultan, eh bien, ça n'est pas une vie d'une paisibilité complète, puisque 50 sultans sur le trône du Caire entre 1250 et 1517, en deux siècles et demi, c'est à peu près deux fois plus que la plupart des moyennes de succession dans les royaumes occidentaux de l'Europe. Par exemple, 13 morts de mort violente, 3 sont exécutés en exil ou en prison, 4 sont morts en prison, 13 morts de mort naturelle, 1 en bataille, et les 36 autres sont renversés ou déposés. Ça n'est pas d'un calme absolu.
Non, tout à fait. C'est une culture politique de la compétition qui se solde très souvent, en effet, par la disgrâce. Alors, on retient souvent le crime de sang, qui est évidemment un événement, surtout lorsqu'il atteint les personnages les plus élevés de l'État. Mais ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est plutôt cette culture de la compétition.
Et de la déposition, c'est-à-dire.
Et de la déposition. Tout à fait. Le sultanat mamelouk donne au fond une image assez paradoxale d'un régime qui est extrêmement stable à l'extérieur, dans ses frontières. C'est une puissance stable et qui repose sur un jeu politique d'une très grande instabilité, qui repose effectivement sur la compétition des maisons militaires entre elles, des officiers entre eux, qui fait qu'au cours d'une carrière, on peut connaître de très nombreuses mutations, on peut connaître la prison, on peut connaître la disgrâce, on peut connaître l'exil, au pire à la Mecque, qui était une place d'exil redoutée, au mieux à Jérusalem, qui était précisément une place d'exil très appréciée par les Mamelouks, et puis, à la faveur d'un retournement d'alliance, réintégrer le premier cercle du pouvoir, réintégrer les plus hautes fonctions de l'État, et parfois même pouvoir atteindre le trône.
Un dernier mot, Julien Loiseau, puisqu'on va écouter un petit extrait du documentaire qui passera demain, de notre promenade dans les salles du Louvre, pour continuer notre propos autour de gouverner en islam. Un dernier mot tout de même, c'est certains sultans qui sont issus, par exemple, de ces milieux de la mer Noire, du Caucase, et dans ces coins-là, vont aller chercher comme esclaves prioritairement des gens qui sont originaires de là-bas. C'est ce que vous racontez pour certains d'entre eux. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est presque une condition enviable que d'être pris comme esclave et ramené au Caire.
Alors il y a effectivement un moment de bascule dans l'histoire du sultanat mamelouk à la fin du XIVe siècle qui est lié à l'épuisement des ressources en esclaves turcs, et entre autres, et qui voit le souverain décider, pour des raisons également de fidélité politique, voit le souverain décider de recruter de manière privilégiée les hommes de son sang, les hommes de son peuple, de son ethnie, en l'occurrence des circassiens, des tcherkesses, qui sont importés du Caucase. À tel point d'ailleurs que ce sont à travers les filières de l'esclavage militaire, ce sont des liens de famille qui se reconstituent. Mmh. On voit des sultans ou des officiers faire venir leur famille depuis les montagnes du Caucase, mais toujours par le filtre des marchands d'esclaves, par le filtre de l'esclavage militaire et de l'éducation mamelouk.
Alors, vous l'avez compris, je m'adresse à nos auditeurs. Il faut lire ce livre de Julien Loiseau, Les Mamelouks, 13e, 17e siècle, pour mieux comprendre ce qu'était cette société mamelouk que vous analysez par le menu, pourrait-on dire, dans la collection L'Univers historique au Seuil. Je vous propose d'écouter, Julien Loiseau, un petit extrait d'une promenade que nous avons réalisée au Louvre avec Séverine Cassard et avec Yannick Lintz, qui est responsable du département des arts de l'islam au Louvre. C'est ce qu'on écoutera demain avec, autour des objets de pouvoir. Elle s'arrête là devant une porte de Samarra, tout près de Bagdad. On est au 9e siècle.
C'est peut-être pas évident de faire le lien immédiat entre une porte et le pouvoir ou la gouvernance en islam. Peut-être qu'on comprendra mieux quand on sait que cette porte vient d'un des palais de cette ville de Samarra construite par le calife Abbaside Al-Mutassim.
On est au 9e siècle.
Oui, la vraie capitale de l'Empire abbasside est Bagdad. Elle est toujours restée sur le plan religieux. Alors, ces abbassides et ces califes abbassides qui construisent Bagdad vont utiliser comme défenseurs, je dirais, de leur pouvoir des mercenaires et des mercenaires turcs qui protégeaient le calife. Et ces mercenaires, de fait, on le sait par les chroniques anciennes et par les récits des géographes, des voyageurs, avaient mauvaise réputation à Bagdad parce que, visiblement, ils pillaient énormément la ville. Donc le pouvoir royal et califal a donc décidé de sortir de Bagdad et de construire en une année, c'est ce qui est absolument extraordinaire, cette immense ville sur un territoire qui s'étend à peu près sur 50 km. Et cette porte vient justement d'un des palais du Dar al-Khalifa. Et c'est devant cette porte que étaient reçus les vizirs qui formaient les représentants de cette administration d'empire centralisé. C'est assez intéressant de voir finalement dans ce personnage qu'on appelle le calife, dont le titre évoque d'abord le chef d'une communauté religieuse, comment finalement il se met en scène essentiellement comme un chef du pouvoir temporel.
Voilà donc, c'était Yannick Lins qui dirige le département des arts de l'islam au musée du Louvre et qui demain donc propose une promenade avec 5 ou 6 objets justement puisés à la fois dans l'exposition Le Maroc médiéval qui vient tout juste de commencer au Louvre mais également dans les collections permanentes du Louvre autour de ces objets de pouvoir dans ce contexte médiéval entre le 10e et le 15e siècle. Merci Julien Loiseau. Il y aura d'ailleurs aussi j'imagine quelques objets qui seront liés à cette région que vous connaissez bien, la Syrie ou l'Égypte, donc des 13e, 16e siècle. Nous continuerons mercredi avec une émission sur le califat et sur la façon dont on a pensé le pouvoir. On parlera beaucoup d'Ibn Khaldoun avec Gabriel Martinez-Gros et jeudi sur la question de la fiscalité et de la gestion des territoires. Donc ça sera le débat final de notre semaine consacrée au gouvernement en islam. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vena Bolivier et Aurélie Marcet. Jacques Hubert était à la technique aujourd'hui et Séverine Cassard à la réalisation. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission comme vous le souhaitez en allant sur notre site internet, l'écouter pendant 1000 jours, la télécharger pendant un an après sa diffusion. Il nous faut remercier Sébastien Logénie qui a accueilli dans ses studios à Jérusalem Julien Loiseau qui était l'auteur des Mamelouks 13e, 16e, 17e siècle, 16e siècle dans la collection L'Univers historique au Seuil, et remercier dans la première partie pour la première partie de cette émission, Jean-Paul Demoule, auteur de « Mais où sont passés les Indo-Européens, le mythe d'origine de l'Occident » dans la collection La Librairie du 21e siècle, toujours au Seuil. Vous pouvez donc réécouter cette émission en allant sur notre site, laisser vos commentaires sur ce même site également et trouver évidemment les bibliographies qui correspondent à ce que nous avons présenté aujourd'hui.